Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Une semaine sportmédable, bonjour à tous et bonjour aux trois personnes qui sont avec nous sur ce plateau pour commenter la riche actualité sportive du week-end. Ricardo Baroni, Bruno Salvey et un petit nouveau Yann Stéphan que l'on salue. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation du rugby, du cyclisme, du football, de la Formule 1, du tennis. Il va y avoir beaucoup de choses dans cette émission. Mais on va commencer par le rugby, parce que les Français ont brillé ce week-end, n'est-ce pas Bruno Salvey, puisque c'est vous qui allez commencer. Les Français ont brillé, ils ont remporté les deux finales européennes, le Challenge européen, Montpellier s'est imposé sur l'Ulster, et la Champions Cup, puisque l'UBB a battu le Leinster. À chaque fois des gros matchs et à chaque fois sur des gros scores, donc satisfaction totale.
Oui, complètement. Oui. On est dans une bonne dynamique au niveau du rugby français. Hein. Ça avait commencé par un titre au tournoi destination, et puis ensuite on enchaîne sur le challenge européen, donc avec Montpellier, qui a largement battu
l'Ulster.
L'Ulster, ouais. En fait, c'était les deux finales, c'était du France-Irlande, puisque un peu la même dualité que pour le tournoi destination, où les Français et les Irlandais se partaient, quoi, essayaient de jouer la première place. Et donc, c'est vrai que le MHR a bien commencé le week-end.
Montpellier,
avec, oui, Montpellier, donc a bien commencé le week-end avec une écrasante victoire contre cette équipe de l'Ulster.
59 à 26.
Oui, donc plus de 50 points. Match très spectaculaire dans un stade magnifique à Bilbao. Et puis surtout, une domination totale des avants montpelliérains qui ont vraiment écrasé cette équipe irlandaise, avec une domination en touche, en mêlée. Donc un pack très solide et qui a construit une belle victoire de cette équipe montpelliéraine. Oui.
Une belle victoire de l'UBB. C'était pas gagné face au Leinster, qui cherche toujours à gagner une finale depuis maintenant plusieurs années. Hein, les Irlandais. Et cette équipe, c'est quasiment l'équipe d'Irlande en plus.
Oui, sur les 8 avant, je regardais la composition d'équipe, sur les 8 avant.
Il y en a 7, je crois, ou 6.
Oui, pratiquement, ils sont tous internationaux. Donc, ils sont tous des titulaires en puissance de l'équipe d'Irlande, donc de l'équipe nationale. Mais on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Ça reste quand même un effectif assez vieillissant. Et on l'a vu, hein, par rapport au match, à cette tenue de match. Les Irlandais ont peiné, notamment. Mais surtout, ils sont tombés sur une très, très forte défense de l'UBB qui a tué le match pratiquement en première mi-temps, puisque une rush défense, comme on appelle, qui montait très très fort et qui a intercepté des balles et qui a été très pragmatique et qui a réussi à marquer à des moments primordiaux, quoi, on va dire. Donc.
Alors, plusieurs questions après ce week-end de domination française, hein, sur les finales européennes en rugby. La première qu'on peut légitimement se poser, Bruno Salvey, c'est que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le championnat de France, ce qu'on appelle aujourd'hui le top 14, hein, est très très relevé, parce qu'on voit que les équipes françaises non seulement arrivent, mais elles trustent les titres depuis plusieurs saisons sur la scène européenne. Et pourquoi il n'y a pas la même différence quand on arrive sur les équipes nationales ?
Alors, l'explication est assez simple, puisque dans les clubs, on a quand même un recrutement de joueurs étrangers, donc avec un apport de joueurs étrangers non négligeable, avec beaucoup de Sud-Africains, d'Anglais, de Samoans, quand on voit
de Fidjiens,
quand on voit l'entrée de Ben Tamifuna, à chaque fois qu'il rentre avec l'UBB, soit il va gratter des ballons dans des moments cruciaux, ou soit il marque des essais. Donc c'est vrai que c'est cet amalgame aussi entre les joueurs étrangers et les joueurs français qui fait que les clubs français, et puis c'est vrai que le top 14 est maintenant reconnu comme une des compétitions phares du rugby mondial, donc c'est vrai que voilà, les Français arrivent à s'en sortir au niveau de la zone européenne. On craignait un peu avec l'arrivée des provinces sud-africaines en Coupe d'Europe, et on s'est rendu compte que même les provinces sud-africaines n'ont pas réussi à rivaliser face aux clubs français, puisque l'UBB a été s'imposer en Afrique du Sud face aux Sharks.
Et pour les équipes françaises qui sont engagées dans ces Coupes d'Europe et qui vont jusqu'au bout, hein, c'est le cas donc de Montpellier et de Bordeaux qui ont été titrés ce week-end, il y a en plus un énorme calendrier à gérer, parce que la plupart des équipes de ce niveau-là ont des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe, le top 14, mais qui sont aussi internationaux avec une nouvelle compétition, la Ligue des Nations, je crois qu'il va arriver bientôt.
Oui,
et ça devient très compliqué.
Oui, et puis il y a eu aussi le tournoi destination auparavant, où bon nombre de joueurs de ces équipes-là ont été sollicités également. Donc on en revient aux cadences infernales du rugby professionnel, où les joueurs jouent trop. c'est sûr. Donc, risque de blessure. Et voilà, donc c'est peut-être aussi au détriment de l'équipe nationale. Mais c'est surtout après un choix que doivent faire les entraîneurs. Montpellier est deuxième du championnat. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Ils sont pratiquement qualifiés pour les demi-finales directes. Mais Bordeaux est cinquième. Donc, il va falloir ne pas relâcher la pression et surtout essayer de s'imposer pour pouvoir jouer cette fin de championnat. Hein. Bordeaux va recevoir, il me semble, je l'avais noté, va se déplacer à Toulon pour la prochaine journée de championnat. Bon, même si Toulon n'a plus rien à gagner dans cette année dans le top 14.
Un match est un match, il ne faut jamais le perdre.
Les Toulonnais, chez eux, il faut quand même aller les jouer. Et puis, Montpellier va jouer Pau, donc rival qui est troisième. Ça va être aussi une belle rivalité pour cette place de demi-finaliste direct. Ça va être assez compliqué. Puis la dernière journée, ça va être le juge de paix. On va voir comment Bordeaux, qui va recevoir Clermont, et ça va pas être simple aussi. Clermont qui joue aussi la qualification, donc rien n'est joué encore pour cette fin de championnat qui s'annonce trépidante. Après, il faut voir l'état de fatigue des joueurs. Après, des matchs d'une intensité pareille, je pense qu'il va y avoir des traces. Hein. Il y a eu quelques blessures, donc ça, il va falloir axer sur la récupération.
Encore une question, puis après je passe la parole à Ricardo Baroni pour intervenir sur le rugby. J'ai juste une question encore.
Oui, j'ai juste une question concernant le rugby. Je suis un dossier avec la fédération au sujet d'un jeune qui est décédé lors d'une sélection, et j'aurais souhaité savoir ce que tu en pensais de ce problème, de ce jeune joueur français.
Mais c'était il y a déjà plusieurs mois.
Ouais, il y a plusieurs mois, mais oui. Il y a un dossier qui continue, on essaie de condamner la fédération, ce genre de choses.
Et c'était donc, pour j'essaie une sortie de comprendre, en Afrique du Sud, un stage en Afrique du Sud.
Oui, j'essaie de comprendre pourquoi, comment et comment ça se passe dans ce genre de situation.
Le problème du décès du gamin, du jeune, c'est que ça s'est passé en dehors du terrain, ça s'est passé lors d'une séance de récupération en Afrique du Sud, lors d'un déplacement.
Ouais.
Et l'encadrement a malheureusement autorisé une baignade dans un endroit où... Il n'aurait pas dû, bien sûr, donc un endroit très dangereux. Et malheureusement, un jeune joueur s'est fait emporter, on ne l'a jamais retrouvé. Donc la responsabilité, elle est bien sûr liée aux encadrants, hein, comme les encadrants sont responsables d'un groupe. Et puis donc et de la Fédé. Donc
de toute façon, la justice est en train de regarder tout ça, bien évidemment.
Absolument. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'était vraiment dehors du terrain, donc c'était extra sportif.
J'en reviens encore au final là, européenne. Bruno Salvey, on note quand même quelque chose dans les clubs français qui est très important, et vous l'avez souligné. En tout cas, Bordeaux, mais Montpellier, c'était le cas aussi, une grosse défense et en même temps, dans le même temps, une efficacité en attaque assez redoutable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rugby français est en train de faire ce que le rugby néo-zélandais a fait il y a quelques années, c'est-à-dire jouer, tout en préservant aussi sa défense.
Oui, complètement. C'est un des principes du rugby, et puis je pense d'un sport collectif. À partir du moment où on a une bonne défense, on récupère des ballons, et puis ça laisse pas mal d'opportunités en contre-attaque, et on l'a vu notamment hein, sur les deux matchs, et notamment Bordeaux, qui a vraiment joué parfaitement cette réorganisation, cette réversibilité, ce qu'on appelle ça, donc de passer du statut d'attaquant, de défenseur à celui d'opposant, donc réorganisation immédiate par rapport au porteur du ballon, et qui donne des opportunités d'aller marquer.
Il y a deux essais d'ailleurs qui sont directement liés à des contre-attaques et à des fautes adverses qui ont été exploitées ou des ballons récupérés.
Oui, mais après ce sont des schémas tactiques qui sont travaillés à l'entraînement, hein, notamment le plaquage à deux sur le porteur de balle. Généralement, le premier arrivé prend plutôt le porteur de balle en bas et au niveau des membres inférieurs, et le deuxième va au ballon pour essayer justement d'arracher le ballon, et ça a bien fonctionné. Donc un gros travail en défense de cette équipe de Bordeaux. Oui.
Voilà, les Coupes d'Europe, c'est donc fait pour les clubs français. Montpellier a remporté le Challenge Cup et l'UBB a remporté la Champions Cup. Place maintenant à la fin du championnat avant la campagne internationale qui va donc débuter dans le courant du mois de juillet.
Juste à signaler quand même que c'est la sixième année que le rugby français remporte la Coupe d'Europe, la Champions Cup, hein, puisque le Stade Toulousain l'avait remporté en 2021.
La
Rochelle deux fois en 2022 et 2023. Le Stade Toulousain à nouveau en 2024. Et là, nos amis bordelais en 2025.
Alors, si on voulait être méchant, mais je vous laisse un peu de temps pour chercher, combien de finales le Leinster a-t-il perdu ?
Je ne sais pas, mais le dernier titre du Leinster, c'était en 2018, donc ça remonte quand même assez...
Je vois qu'ils ont fait 4 finales depuis.
Oui, il me semble aussi, oui. Ouais.
Voilà donc pour ce week-end de rugby où les Français ont dominé les débats, hein, on peut dire ça comme ça, et conclu les campagnes européennes avec victoire. C'est donc fait pour cette année 2026. On va passer au cyclisme maintenant parce que nous sommes en plein cœur du Giro, le Tour d'Italie. Déjà 2 semaines de course de passé, il en reste encore une. On va en parler avec Riccardo Baroni et Yann Stéphan. Un mot d'abord avant de parler de la course en elle-même, Riccardo Baroni, parce que les derniers temps sur les commentaires après la 15e étape, on parle beaucoup du rôle des motos, les fameuses motos suiveuses. Alors il y en a partout, c'est vrai, des motos hein, sur une course cycliste. Il y a la gendarmerie, il y a les équipes qui ont des motos, il y a les photographes, il y a les journalistes, il y a beaucoup, beaucoup de motos. Est-ce que c'est un vrai débat ça, ou est-ce que c'est les équipes qui perdent ou qui ne font pas forcément la course qu'ils veulent qui déclenchent des polémiques pour essayer de se justifier ?
C'est un vrai débat, mais les motos, elles sont aussi bien devant les échappées que devant le peloton. Donc c'est vrai que cette nuit, le débat s'est en plus agrandi pour la simple raison que le peloton n'est pas revenu sur les échappées. Et que pour une fois, on a des échappés qui se jouent la victoire.
C'est tellement rare maintenant
et
de voir des échappés aller au bout.
C'est vrai, et donc que cet échappé joue la victoire, ça fait plaisir à beaucoup de gens. Et d'habitude, on dit les ceux qui attaquent dès le départ, c'est juste pour montrer à la télévision, faire de la publicité, une échappée comme ils disent publicitaire. Là, ça n'a pas été le cas puisque ils sont allés jusqu'au bout et ils arrivent avec une 50aine de secondes. Donc c'est pas non plus que ça s'est joué à très peu. Mais il y a eu une autre chose qui a modifié cette étape, c'est qu'ils ont neutralisé la course à 15 km de l'arrivée, et donc ça aussi un peu faussé la course puisqu'il y a beaucoup de coureurs qui se sont relevés, surtout ceux qui visaient le classement général. Donc là, on a eu droit à une course de plat, et la veille, on avait une course de montagne, donc je pense que les coureurs avaient aussi un petit besoin de récupérer. Ils ont profité pour dire que c'était dangereux dans les rues de Milan, le circuit.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Yann Stéphan ?
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, Paul Magnier, du coup, il voulait gagner le sprint, et ben du coup, ils n'ont pas réussi à revenir. Et c'est vrai que le fait de bloquer le chrono à 15 km de l'arrivée, ben effectivement, du coup, les grosses équipes ont arrêté de rouler et en fait, c'est pour ça qu'ils ont eu du mal à rentrer et du coup, ils ne sont pas rentrés. Mmh. Bon, après, ça a fait plaisir également à Torushov, hein, du coup, puisque c'est un coureur de son équipe qui s'est imposé. Après deux fois une deuxième place de
Lekkesung,
voilà, c'était vraiment tout à leur honneur.
Est-ce que la polémique va s'éteindre, selon vous, ou est-ce que ça va continuer encore ?
Moi, je pense que ça va s'éteindre. Le problème, c'est que j'ai vu le média italien de la télévision italienne qui est scandalisé parce que on est en transmission, en diffusion internationale, et de bloquer la course à 15 km de l'arrivée au niveau communication et image du Tour d'Italie, c'est pas spécialement positif. Mais la veille, on avait une étape avec une arrivée au sommet de la Val d'Aoste à Pila, et là c'était vraiment du spectacle, c'était super, et ce qui m'a plu dans cette étape, c'est la course, mais après la course, les coureurs qui redescendaient en téléphérique avec les supporters et tout, j'ai trouvé ça assez super.
Alors, quel est le statut de ce Giro aujourd'hui ? Parce qu'on sait que dans le calendrier international, il y a le Tour d'Italie et qu'il y a après le Tour de France. Je mets le Tour d'Espagne de côté. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour gagner les deux, c'est devenu extrêmement difficile parce que ce sont des courses qui sont extrêmement relevées. On voit donc qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes plateaux. Il y a certains coureurs qui ont choisi de faire l'impasse sur le Tour d'Italie pour se consacrer sur le Tour de France. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir choisir entre le Giro et le Tour de France ? Est-ce que ça va devenir incontournable, Yann Stéphan, si un favori veut s'imposer ? Parce que même Pogacar ne fait pas le Tour d'Italie.
Oui. Mais en fait, Vingegaard, il a fait le choix de le faire.
Qu'il sait que le Tour de France, il ne va pas arriver à battre Pogacar ?
Non, je ne pense pas, parce que pour lui, il a toutes ses chances de gagner. Hein. Ça, c'est sûr. Mais on voit quand même qu'il est peut-être un petit peu en réserve, quand même, par contre, surtout au début. En fait, son pic de forme, alors, comme certains disent, Pogacar, lui, il n'en a qu'un seul de pic de forme.
365 jours
par
an.
Il dure toute l'année. Mais là, pour Jonas Vingegaard, on voit qu'il n'était quand même pas à son plein niveau dès le début. Bon, on l'a vu, hein. Alors,
ça veut dire qu'il peut gagner le Giro en étant en phase de préparation pour le Tour de France.
Ouais, phase de préparation, c'est quand même pas tout à fait ça, parce que les coureurs sont obligés d'arriver en forme quand même, hein, sur le Tour d'Italie. C'est pas du tout une course de préparation pour le Tour de France. Hein. Et maintenant, il n'y a plus de course de préparation de toute manière. Donc, mais par contre, non, je pense qu'il n'est pas à son pic de forme. D'ailleurs, on l'a vu sur le contre-la-montre. Alors, est-ce que c'était un jour sans ou pas? Mais pour moi, non, il n'est pas à ses 100% en ce moment.
Ricardo Baroni?
Oui, donc où on voit que ce n'est pas un niveau très, très élevé, c'est que Jonas Vingegaard, quand il veut gagner une étape avec une arrivée au sommet, ce sont des coureurs, on va dire, moins connus. Il y a Pellizzari, par exemple, un coureur italien, et Piganzoli aussi, un coureur italien qui aide énormément Jonas Vingegaard à faire la sélection dans la montée finale. Donc, c'est vrai que ça permet de voir ce tour d'Italie, de voir d'autres coureurs qui sont moins connus. C'est pour ça que moi, j'ai toujours espéré que Paul Sexas commence par le Tour d'Italie. Ça aurait été vraiment quelque chose de bien pour lui. Et surtout que c'est une course débridée. Il n'y a pas, comme au Tour de France, de grosses équipes qui imposent un rythme et où les échappées, c'est très difficile de s'en sortir. Avec toutes ces arrivées au sommet, un Paul Sexas m'aurait énormément plu. Et dans tous les commentaires qu'on a, que ce soit télévision italienne ou espagnole ou même française, on parle toujours du Tour de France, de Jonas qui se prépare pour le Tour de France, que Félix Gall du Tour de France qu'il a fait une année cinquième. Donc c'est un petit peu quelque chose qui est un peu dommage qu'on n'ait pas des coureurs de haut niveau avec Jonas pour nous faire un petit peu de spectacle. Moi, ce qui m'a surpris, par exemple, dans ce Tour d'Italie arrivé au sommet, c'est qu'on a un jeune coureur italien qui s'appelle Piganzoli. Et donc, il dicte un rythme assez élevé pour faire la sélection. Et donc, Jonas Vingegaard, après, attaque et s'en va. Ce qui m'a surpris, c'est qu'habituellement, ces coureurs-là se relèvent, ils arrêtent de rouler, ils récupèrent. Et là, il suit et il essaye d'arriver. Il fait une fois troisième, une fois quatrième. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et la raison est très simple, c'est qu'il a la même taille que Jonas Vingegaard. Et s'il lui arrive un problème mécanique ou quoi que ce soit, ils peuvent changer de vélo entre eux. Puisque quand il y a des coureurs un petit peu partout, les voitures d'assistance ne sont pas derrière les coureurs.
Encore la faute des motos, vous allez me dire.
Voilà. Ouais, mais on n'a pas encore vu les vélos sur les motos, à part dans certains tours de Calédonie.
On voit des roues sur les motos.
Voilà, c'est ça. Mais bon, s'il a un problème de dérailleur, ce genre de choses. De même que j'ai vu que Jonas Vingegaard, dans cette étape, pour les spécialistes, il n'avait qu'un plateau devant, il n'avait pas double plateau. C'était vrai, une montée roulante. Mais ça nous a fait un spectacle. Et Félix Gall, qui ne va pas au Tour de France, qui est donc dans la même équipe que Paul Sexas, se débrouille très bien et il perd très peu de temps sur lui et ça nous laisse un peu de suspense, même si on regarde qu'au classement général, déjà, Félix Gall, il est presque à 3 minutes. Donc le suspense, c'est plutôt pour les gens qui vont monter sur le podium avec Jonas Vingegaard.
Pour moi, Piganzoli, il ne se relève pas, c'est aussi parce qu'il est classé... pour la place du meilleur jeune, surtout. En fait, on attend que notre bon
Portugais,
Eulalio, là, qui avait fait quand même un sacré numéro, on s'attend à ce qu'il perde encore quelques places, et c'est aussi pour ça qu'il ne relâche pas Piganzoli, parce qu'il peut avoir sa place pour le maillot blanc.
Alors, il n'y a pas Paul Sexas, hein, vous l'avez dit, sur ce Tour d'Italie, on verra, on sait qu'il sera sur le Tour de France. En revanche, il y a notre ami Magnier qui a remporté deux étapes au début de Tour, Paul Magnier. C'est une surprise pour vous, Ricardo Baroni?
Non, parce que l'année passée, je crois qu'il finit au classement mondial deuxième au niveau des victoires.
C'est un sprinter.
Un sprinter. Il a perdu le maillot. Dans cette étape de montagne, il avait perdu le maillot au profit de Narvez. Et là, donc, cette étape pour lui à Milan, puisqu'il faut savoir que pour les sprinters comme Paul Magnier, il ne reste plus que deux étapes. Maintenant, il ne reste plus qu'une. Mais Milan, il espérait gagner cette étape pour faire énormément de points et créer un gros écart avec le deuxième. Il faut savoir que Narvez, quand il a pris le maillot, il avait juste un point d'avance sur Paul Magnier. Par contre, les étapes qui restent jusqu'à la fin du Tour d'Italie sont plus favorables à Narvez que Paul Magnier, puisque Paul Magnier, c'est vraiment le vrai sprinter. Tandis que Narvez, il se débrouille très bien dans les étapes dénivelées, donc il risque de faire des points à des endroits où Paul Magnier en est incapable. Il faut savoir que Narvez, il a déjà gagné 3 étapes et Paul Magnier 2 étapes.
Voilà, donc le match est en cours.
Tout
et
à fait.
C'est pas fini. Un petit mot sur ce Giro.
Oui, bon, après, on évoquait tout à l'heure que les rugbymen jouaient beaucoup trop et donc les organismes étaient énormément sollicités. Je pense que c'est la même chose aussi en cyclisme. Alors, ça peut aussi expliquer la non-présence de Pogacar ou de Sexas, ou peut-être aligner des grands tours comme ça, ça peut être compliqué. Donc je ne sais pas si la gestion de l'humain et surtout des organismes.
Mais en fait, oui, c'est une vraie question. Est-ce que Yann Seffa, en fait, les coureurs ne choisissent pas en fonction de leur calendrier, c'est-à-dire qu'ils savent déjà en début de saison s'ils veulent être en forme pour les classiques ardennaises, pour les grands tours, pour la fin de saison, parce qu'il y a les championnats du monde, hein, nous l'oubliez pas, en fin de saison, il y a encore des grosses courses. Donc c'est vrai que la saison de cyclisme, elle dure 10 mois aujourd'hui, quasiment 9 mois, et qu'elle est très complète. Donc est-ce que les coureurs ne font pas un choix au départ, finalement ?
Si, bien sûr, hein, le calendrier, il est établi en début d'année. Et chaque coureur sait exactement quelle course il va faire. Alors afin
de préparer.
Pourquoi
on a entendu si longtemps de savoir que Paul Sexas allait faire le Tour de France ? Parce qu'il n'avait pas encore brillé en début d'année ?
Bon, en fait, je pense qu'il le savait. Il le savait quand même. Et on l'a vu dès le début de l'année, au Strade Bianche, il a fait un sacré numéro. Il a remis ça après autour du Pays Basque. Et puis, bien sûr, à Liège-Bastogne-Liège. Et donc là, c'était sûr, après Liège-Bastogne-Liège, on a eu la décision officielle, mais c'était déjà entériné pour moi.
Est-ce que c'est le coureur qui choisit, ou est-ce que c'est le préparateur physique ou le manager, ou
c'est l'équipe,
le staff médical qui aussi doit juger de l'état de forme et
tout le monde,
de préserver
une décision collégiale.
Oui, c'est ça.
Bon, pour moi, c'est pas le staff médical, etc. Hein, c'est surtout le... C'est surtout les grands patrons de pour le coup, c'est Décathlon. Hein, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Hein, surtout qu'on ne sait pas s'il va rester chez eux. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a aligné.
Il va être sans doute très sollicité.
Voilà.
Le choix des courses pour les coureurs, on prend un exemple, Jonas Vingegaard, il ne fait pas les classiques, hein, il ne fait pas les courses qu'a fait Pogacar. Il fait principalement les courses par étapes parce qu'il a une grande récupération et qu'il est très fort dans les longues montées. Tandis qu'un coureur comme Pogacar, il voulait absolument gagner Milan-San Remo et Paris-Roubaix cette année. Paris-Roubaix, deuxième. Milan-San Remo, il a gagné. Lui, c'est assez un coureur exceptionnel. Par contre, là, une fois qu'il a fini, par exemple, le Tour de Romandie, c'est une coupure totale de récupération. On prend un exemple comme Remco Evenepoel qui a fait les classiques en début de saison. Là, il ne court plus jusqu'au Tour de France. Quand je dis qu'il ne court plus, il ne court plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'entraîne pas.
Oui.
Ils font des stages en altitude.
Bien sûr.
Voilà, ils font une perte de poids pour les courses par étapes, puisque au niveau poids, quand on fait une classique ou qu'on fait une course par étapes, ce n'est pas du tout la même chose.
Pogacar n'a pas gagné Paris-Roubaix cette année ?
Eh non, il fait deuxième derrière Wout van Aert.
Ah, Wout van Aert, excellent. Voilà, Wout van Aert qui n'est pas sur le Giro non plus.
Non plus. Qui a été vraiment, ça a satisfait tout le monde, hein, cette victoire de Wout van Aert à Paris-Roubaix, qu'on soit italien, français ou quoi, ça a vraiment fait plaisir à tout le monde.
On ne peut pas ne pas aimer
Wout van Aert. Gravel,
il
a fait un peu de gravel ces derniers temps. Ouais.
Voilà, il a même gagné championnat d'Europe, je crois.
Oui, de gravel, oui.
Voilà pour les deux grosses actus du week-end sport, le rugby et le cyclisme. Il nous reste à parler encore Formule 1, tennis et football. Ce sera après une courte page de pub. À tout de suite.
RRB, la pub.
Maman, t'es plutôt dispo vers la fin du mois ?
Ben oui, pourquoi ?
Parce que samedi 30 mai, le centre commercial Hyper U Païta célébrera toutes les mamans avec une journée spéciale fête des mères. Au programme, des animations gratuites avec des portraits BD en live, des massages bien-être, un photoboot et même tout plein d'ateliers enfants pour vous confectionner de super cadeaux.
Et papa pourra aussi me trouver des cadeaux dans toutes les boutiques de la galerie et sur le marché spécial fête des mères qui aura lieu les 23, 24, 30 et 31 mai. Mais c'est génial !
Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook Centre commercial Hyper U Païta. Le tout info continue avec la BCI. Particulier, professionnel, entreprise, avec la BCI, des solutions sur mesure pour construire et accompagner tous vos projets. BCI, ensemble, voir plus loin.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
La suite et la fin d'une semaine formidable avec cette semaine Riccardo Baroni, Bruno Salvé et Yann Stéphan. On a parlé évidemment rugby et des sacres des clubs français dans les coupes européennes, Montpellier en Challenge Cup et l'UBB en Champions Cup. On a parlé du Giro qui est toujours en cours puisqu'on est à la fin de la deuxième semaine et qu'on entame la troisième semaine avec Jonas Vingegaard qui est pour l'instant en tête. On va enchaîner avec la Formule 1. C'était le Grand Prix du Canada. C'était cette nuit tôt ce matin pour nous. C'est une nouvelle victoire de Kimi Antonelli. C'est un Italien. La quatrième victoire consécutive. Alors l'Italie ne brille pas avec Ferrari, mais brille avec ses pilotes pour l'instant, Riccardo.
Ben, Ferrari ne sont pas trop mal comportés puisqu'ils font deuxième avec Lewis Hamilton. Donc c'est vrai que le résultat fait espérer Ferrari, mais il ne faut pas oublier que l'autre Mercedes de Russell, il a eu un problème mécanique et donc le moteur a lâché. Il avait dominé tout le week-end hein, en faisant les deux pole positions, en gagnant la course sprint. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage ce qui s'est passé avec les Mercedes. Mais bon, quand on voit le podium Kimi Antonelli, qu'on voit Lewis Hamilton et Max Verstappen sur le podium, je trouve que c'est pas mal et il doit être vraiment content de sa photo.
Derrière, il y a Charles Leclerc et Isaac Hadjar.
C'est ça, tout à fait. Donc je pense que ça a été une course où au niveau météo, ça a un peu modifié le départ, puisqu'ils avaient travaillé sur une autre stratégie, McLaren, sur au niveau des pneus, et qu'ils ont changé au bout de 2-3 tours. Donc c'est vrai que ça a été une course assez assez passionnante, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Ferrari fasse déjà deuxième, puisque si on prend vraiment les équipes, c'est Mercedes, après c'est McLaren, et après c'est Ferrari, non? Et je pense qu'ils se sont bien débrouillés. Max Verstappen qui critique, on va dire, souvent, pour pas dire dès que l'occasion se présente, de cette nouvelle Formule 1 avec la gestion des moteurs électriques et à combustion. Donc il fait troisième, donc il était assez content.
Un mot sur Isaac Hadjar, évidemment qu'on suit de près, le Français qui obtient une cinquième place, qui est son meilleur résultat en Grand Prix. On attend toujours qu'il performe un tout petit peu plus, ou il apprend.
Moi, je trouve que sa cinquième place est très bien, puisqu'il a eu un gros duel avec Leclerc hein, pour se faire dépasser au bout de quelques tours par Leclerc. Il a même eu une pénalité, mais l'écart étant tellement grand avec le sixième, il a pu garder sa cinquième place. J'ai trouvé que Leclerc, sur l'analyse du comportement de Hadjar, a été très positif, puisqu'il a dit ce qu'il a fait, moi je l'ai fait aussi dans le passé. Donc c'est bien, ça lui donne envie de se battre. Il n'avait pas eu un week-end très performant, Hadjar. Et là, dans le Grand Prix, il s'est bien débrouillé, parce que dans la course sprint, ça ne s'était pas spécialement bien passé pour lui.
Un mot sur cette nouvelle formule de moteur électrique, de temps de récupération de moteur, de chargement pour pouvoir dépasser. Est-ce que selon vous, ça donne une saison de Formule 1 qui est complètement renouvelée par rapport à ce qu'on a connu? Est-ce que c'est une bonne solution aujourd'hui?
Ben, on espérait des changements, mais quand on voit les équipes, c'est toujours les mêmes qui sont devant. Il y a Mercedes qui a fait vraiment un exploit technique, on va dire, au niveau du moteur, qui fait qu'ils ont de l'avance sur les autres équipes, qu'ils essayent de rattraper. Maintenant, toujours Max Verstappen, il dit que c'est de la Formule 1 où ben, au lieu de rentrer dans un virage à fond, et il faut ralentir pour recharger la batterie et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu... on va dire pas un petit peu, mais même beaucoup stratégique de recharger la batterie pour avoir plus de puissance, puisque quand une voiture de Formule 1 est derrière l'autre et celle devant perd de puissance à cause de la batterie, ben c'est beaucoup plus facile pour le suivant de dépasser. Cette nouvelle technique, c'était surtout pour faire du spectacle. On en a, hein, on a des dépassements, il se passe certaines choses. Maintenant, il y en a qui souhaiteraient revenir à la vraie Formule 1 où on n'avait que le moteur à combustion et que c'était que de la vitesse et non de la gestion électrique.
Les règlements changent et c'est vrai dans tous les sports, pas seulement en Formule 1 ou dans les sports mécaniques, mais c'est vrai que les règles s'adaptent évidemment en fonction de l'évolution des sports. Voilà donc pour cette page F1. Un petit mot, tiens, de la Coupe de France de football, le Lens qui a battu Nice. Ça intéresse encore qui, la Coupe de France de football? Ça intéresse vraiment... on a l'impression que cette compétition, elle est historique, donc elle a sa place, mais qu'elle a perdu complètement en magie, en côté spectaculaire, Riccardo.
Oui, la Coupe de France m'intéressait. On se doutait de l'équipe qui allait gagner. Je voulais voir Nice, comment ils allaient se comporter, parce qu'ils sont en grosse difficulté dans le championnat, donc ils ne savent pas s'ils vont être relégués ou pas. Et donc j'espérais que ça se passe très bien pour eux et qu'ils s'en sortent bien.
Surtout ça n'a
avaient... pas été le cas, mais ils avaient deux grands matchs à gérer, ce match de Coupe de France et maintenant match de relégation. Donc je voulais savoir un peu comment ça allait se passer. RC Lens a gagné.
Vous avez la réponse.
Et oui, mais ils ont très bien gagné. Mais je voulais voir s'ils avaient un sursaut d'orgueil, Nice, et qu'il allait y avoir un match plus, on va dire, plus combattu. Ça n'a pas été trop le cas.
Alors, Lens, c'est une équipe que vous connaissez un peu, Yann Stéphan, l'équipe du Nord, que vous avez des anecdotes d'ailleurs sur ce qui s'est passé après match.
Oui, tout à fait.
On a beaucoup parlé de l'avant-match, mais assez peu de l'après.
Oui, voilà. Moi, j'habitais juste à côté dans ma précédente affectation. Et c'est vrai que les gens du Nord sont très attachés à leur club de foot local, surtout le RC Lens. Et donc, à l'issue du match, ils se sont tous retrouvés à 4h du matin au stade Bollaert. Et puis, ils ont tous entonné les corons, etc. Enfin, ça a dû être une sacrée fête.
Hein. Bon,
ils n'ont pas dû se coucher, je pense.
Je pense pas.
Si, ils ont dû se coucher, mais on ne sait pas à quelle heure. Oui.
Non, je pense pas. Parce qu'il y a,
pour aller directement au stade à 4h.
Ouais. À l'issue, il y avait même eu une parade dans Lens, etc. Enfin, ça devait vraiment être quelque chose. Hein. Moi, j'ai beaucoup de camarades là, qui ont dû vraiment faire
ce qui veut dire que cette compétition a encore de l'importance auprès d'un certain public.
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui.
Le tennis, il faut bien qu'on parle tennis. Roland-Garros a débuté ce week-end. Personne ne veut en parler. Alors, ce n'est pas parce qu'il y avait 12 Français en lice la nuit dernière qu'il n'y en a que deux qui sont qualifiés que vous ne voulez pas en parler, Bruno Salvet?
Oui, c'est, malheureusement, les Roland-Garros se suivent et se ressemblent. Et voilà, donc on va finir par croire que c'est un tournoi maudit pour les Français, puisque, comme vous l'avez dit, plus que deux Français en lice.
Enfin, deux Français par rapport à la nuit dernière. Ouais, hein, ouais. Il y a encore des Français qui jouent la nuit prochaine. Et on est sûr qu'il y aura deux Français dans le tour suivant,
oui,
puisqu'il y a deux matchs franco-français. Donc,
il y aura
forcément un qualifié.
Oui.
Ricardo. Moi, je regrette de ce Roland-Garros qui nous manque deux grands joueurs. Un joueur français qui jouait très bien actuellement et qui se comportait bien, qui est blessé, qui a mal au dos. Et Alcaraz.
On rappelle son nom, peut-être.
Fils.
Arthur Fils.
Et Alcaraz qui enlève un peu, puisqu'on a encore des souvenirs de la finale de l'année dernière, qui était une finale fantastique avec Sinner. Donc là, on a peut-être des regrets où deux têtes d'affiche sont absentes, mais on va peut-être avoir quelqu'un qui va comme ça sortir et faire de super matchs et qui va nous relancer. Je regardais aussi chez les filles, puisque l'année dernière, Poisson avait fait une super Roland-Garros. Donc on regarde
Boisson,
aussi comment
Boisson.
Elle...
Loïse Boisson,
pardon. Et donc elle avait fait super match à Roland-Garros. Donc je veux voir si cette année c'est sur la même voie.
Malheureusement, tous les tournois qu'elle a fait depuis le début de la saison n'ont pas été très très importants, puisqu'elle a été éliminée quasiment à tous les premiers tours de tournoi. Un mot peut-être, Yann Stéphan, sur Roland-Garros? Non,
du tout.
C'est le tennis, c'est pas votre truc.
Si, je regardais.
Vous regardez que les finales.
Voilà, c'est un peu ça.
Oui, mais merci en tout cas à tous les trois d'être venus dans cette émission qui n'est pas tout à fait terminée, parce que comme chaque fois, on va terminer évidemment avec vos coups de cœur dans des sports ou des disciplines dont on n'a pas forcément parlé tout au long de cette émission. On commence avec vous, Bruno Salvet.
Mon coup de cœur au niveau du rugby, coup de cœur par rapport au capitaine de l'équipe de l'UBB, Maxime Lucu, qui a vraiment livré un super match, qui a d'ailleurs été élu homme du match de cette finale, qui a montré l'exemple en marquant le premier essai de cette équipe, et puis surtout malgré le carton jaune qui a porté tout au long de cette année cette équipe, et ça fait toujours plaisir d'avoir un demi-mêlée de ce niveau-là qui peut postuler en équipe de France.
Alors justement, du coup, c'est la question forcément que j'ai envie de vous poser, puisqu'on a un peu de temps. Est-ce qu'il n'y aura pas un match avec Antoine Dupont, qui jusqu'à présent était quasiment incontestable, qui cette saison a été un peu plus en dedans que ce qu'on a vu habituellement? Est-ce que ça veut dire pour l'équipe de France, Lucu pourrait prétendre à prendre la place de leader?
Oui, pourquoi pas. De toute manière, ça fait plusieurs années qu'il est numéro 2 en équipe de France. C'est vrai que Antoine Dupont a un léger coup de mou depuis son retour de blessure. Donc oui, c'est toujours mieux d'avoir de manière deux super éléments, comme on a aussi deux super ouvreurs avec.
On a deux super tout.
Tamac et puis et Jalibert aussi qui a livré un bon match. Donc c'est très bon pour l'équipe de France d'avoir des doublures de très haut niveau.
On ne parle pas des arrières, on ne parle pas des trois quarts, on ne parle pas des avants. Tous les postes sont doublés très très bien.
Oui, donc maintenant il va falloir limiter peut-être les blessures et puis bien se préparer pour la prochaine Coupe du Monde.
Yann Stéphan, votre coup de cœur.
Oui, donc mon coup de cœur, moi, c'est en triathlon, donc où notre ancien champion du monde d'Ironman à Nice, Sam Laidlaw, a battu le record de l'épreuve de l'Ironman de Lanzarote ce week-end en un tout petit peu plus de 8 heures.
Rappelez-nous rapidement les distances de l'Ironman.
Donc c'est 3,8 km de natation, suivi de 180 km de vélo.
Et un petit marathon pour
finir.
Marathon.
Donc là, notamment, il a fait le marathon en 2h44. Oh. Donc, à savoir aussi que c'est un très, très, très bon cycliste, hein, parce qu'il a le record actuel à Hawaï, avec 46 de moyenne sur les 180 km de vélo.
Allez, vous avez droit à un deuxième petit coup de cœur, parce que c'est une Française, donc je vous l'accorde.
Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi notre championne olympique de triathlon, donc Cassandre Beaugrand, qui a battu le record de France du 5000 mètres en course officielle, donc en 14 minutes 40. Voilà, donc encore une très belle performance de nos triathlètes.
Et pour finir, Ricardo.
Alors, mon coup de cœur, c'est pour Kimi Antonelli. Pas pour avoir gagné le Grand Prix, c'est pour son comportement dans la course sprint, où il a exprimé de vive voix son mécontentement et que son team manager l'a calmé au volant de sa voiture. Tout ça pour dire qu'on est dans le sport où souvent tout est aseptisé, tout le monde, oui, il est gentil, il est beau, etc. Là, il s'est lâché, il s'est exprimé sans aucune vulgarité, simplement montrer qu'on peut faire du sport et avoir du caractère et être respectueux pour son adversaire.
Bruno Salvay.
Oui, alors si vous me permettez, moi j'aimerais rendre un hommage, puisque j'ai appris avec stupeur ce matin le départ de Kirvin Wadarwan. Donc c'est une très très belle personne, jeune calédonien, très compétent, avec qui j'ai eu la chance de travailler, notamment dans la mise en place du PTSPD, du plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc à toute sa famille, à tous ses amis, à tout son clan, je leur souhaite tout le... mes sincères condoléances, et moi je suis très ému parce que t'es une personne très attachante et voilà, une belle personne.
On va terminer avec cet hommage. Merci beaucoup Bruno Salvay, merci à Yann Stéphan et à Ricardo Baroni d'être venus dans cette émission, une semaine formidable. Un peu de musique à suivre en attendant l'heure du journal à 17h45, journal de la rédaction qui sera présenté ce soir par Léo Fichou.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.